Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bonjour Émilie.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
J'espère que vous êtes prête Émilie ce matin puisque nous vous convions tous au Barbès Café.
Chouette.
Matin. Oui, le Barbès Café, parti. C'était un spectacle et c'est maintenant un livre avec des textes de Samia Messaoudi. Bonjour Samia.
Bonjour Philippe.
On vous a fait rester dans les locaux, hein, puisque vous êtes avec nous tous les dimanches pour Rencontre sur Beurre FM. Vous faites partie des historiques de la station et vous êtes journaliste.
Il semblerait.
Et avec votre compère Mustapha Arzoun. Bonjour Mustapha.
Bonjour.
Historien, analyste et critique de littérature arabophone et arabo-francophone. Vous avez publié donc tous les deux les textes de cette histoire du Barbès Café. Émilie, le Barbès Café, est-ce que vous y êtes déjà allé, vous ?
Eh bien non, pas encore, je dois l'avouer. Malheureusement, c'était complet hier soir.
C'était complet pour le 20e anniversaire
du
Cabaret Sauvage. On dit presque le Barbès Café maintenant. Quand on va au Cabaret Sauvage, on dit le Barbès Café.
C'est vrai, c'est vrai.
Bah, c'est un lieu qui, depuis 2011, a été au Cabaret Sauvage, le lieu qui a été identifié Barbès Café parce qu'il y a eu pendant 6 ans des représentations de ce spectacle sur l'histoire de la chanson algérienne, de l'immigration. Mais juste un mot, si vous me le permettez, Mézié Nazaïf, qui est le directeur de ce Cabaret Sauvage, aime à dire que c'est pas que le lieu du Barbès Café, c'est le lieu de toutes les musiques du monde, c'est le lieu de toutes les musiques de Paris. Il le dit souvent, donc.
Même si aujourd'hui, le succès du Barbès Café fait que c'est le lieu du Barbès Café.
Voilà.
Est-ce qu'il a vraiment existé, le Barbès Café?
En soi, proprement dit, non, c'est une création à partir de l'histoire. D'ailleurs, une petite précision, je ne suis pas historien, je suis juste journaliste littéraire, donc c'est une petite précision quand même pour nos auditeurs. Donc le Barbès Café en tant que lieu stricto, au sens strict, non, mais en tant que lieu qui s'est inspiré de l'histoire de l'immigration algérienne en France, et donc des cafés de l'immigration, hôtels, restaurants, et autres bouis, etc.,
Bistro, ils
ont bien existé. Le Barbès Café symbolise, incarne ces lieux et en traduit un peu et l'ambiance et une certaine philosophie. On en parlera sans doute au fur et à mesure de l'émission. Et donc le lieu en tant que tel traduit un fait bien réel.
Bien, le Barbès Café est essentiellement kabyle finalement. Dans l'immigration algérienne.
Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment lié à l'histoire de l'immigration algérienne. L'immigration algérienne arrive dès... On en recense même quelques éléments à la fin du 19e siècle. Le gros va arriver avec la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres. Et là, essentiellement, effectivement, l'immigration algérienne est essentiellement kabyle. Elle va se diversifier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec des populations qui viennent de régions arabophones. Et les choses vont se diversifier. Mais pendant très longtemps, l'immigration kabyle est majoritaire au sein de l'immigration algérienne. Et effectivement, l'expérience des cafés et de l'immigration est essentiellement liée à l'immigration kabyle ou berbérophone.
Surtout dans cette région parisienne, d'ailleurs, puisque, comme le souligne Mustapha, on est dans ces années-là où c'est une immigration algérienne d'hommes seuls, essentiellement, un travailleur de l'automobile, du bâtiment ou d'autres activités professionnelles et ouvrières. Ils sont seuls, ils se retrouvent dans les cafés, et ils sont effectivement kabyles. On verra que quelques décennies plus tard... Une autre partie de cette immigration algérienne, on va la retrouver dans la région Rhône-Alpes, et ce sera effectivement géographiquement une autre région d'Algérie
d'autres
qui s'installe,
voilà.
D'autres régions qui s'installent en France.
Ouais. Quel rôle les cafés jouent dans l'immigration algérienne ?
C'est un phénomène central. C'est-à-dire que par là que d'abord, c'est quand même lié à cette histoire. D'abord, les Algériens étaient français, même s'ils n'étaient pas citoyens. Ils étaient considérés comme indigènes avec un statut bien spécial, bien particulier, mais ils avaient le droit d'ouvrir des cafés. Notamment en immigration. Et donc, ça a été un lieu où il a été permis à l'immigration algérienne de se retrouver, de trouver éventuellement des informations pour s'employer, de loger, de se nourrir. Et surtout que dans les années avant la Seconde Guerre mondiale, l'immigration algérienne fonctionnait sous la forme de noria. C'est-à-dire qu'on venait pour 3, 4, 5 ans, on repartait, quelqu'un du village, un cousin ou autre, reprenait le flambeau de migratoire pour assurer la subsistance au pays. Donc, ça a vraiment été un lieu où l'immigration s'est retrouvée, l'immigration s'organise, l'immigration doit se loger, etc. Et ça a été comme tout phénomène migratoire d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours ces îlots communautaires entre guillemets, ce sont des sas plus que des enfermements. Ça veut dire que ça permet effectivement d'avoir l'information, de se retrouver, de se rassurer et éventuellement de rebondir, d'être un tremplin dans la trajectoire migratoire. Et le café kabyle, le café algérien en général, ça a été ça. On parlera sans doute effectivement de l'aspect un peu plus culturel, artistique, relationnel avec le reste de la société française, mais avant tout, c'est effectivement, ça permet à une communauté, qu'elle soit en l'occurrence algérienne ou d'autres communautés, d'autres expériences, de se retrouver et de commencer à faire son trajet en France.
On fait son trajet en France et puis on n'oublie pas le pays parce que c'est aussi un lieu où ils se retrouvent par village, souvent dans les cafés. Je pense à précisément des cafés en région parisienne où il y avait tel village, il y avait quelques hommes de tel village qui se retrouvaient dans un café et après le groupe grossissait parce que ils savaient qu'à Saint-Ouen il y avait ce café où se retrouvaient les habitants de ce village. Donc il y a vraiment une communauté qui se retrouve là, de l'intérieur, et qui pense, qui vit son exil, mais qui a la mélancolie, la nostalgie et l'histoire du village. Et là, se raconte le village. Qu'est-ce qui se passe là-bas pendant qu'on est là? Il y a toute cette dynamique qui est importante aussi dans ces lieux.
Alors, juste une référence sur le sujet, puisqu'on est dans une émission aussi littéraire. Il faut lire Mouloud Feraoun sur justement ses premiers cafés de l'immigration algérienne, qui raconte l'arrivée en France, qui raconte l'organisation par village, etc., le cousinage, etc., etc., voire même les répercussions. Bon, ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Au village même, quand l'immigré vient au village avec une campagne française.
Le journal de Mouloud Feraoun a été réédité il n'y a pas très longtemps. Oui. Vous le trouvez en poche. Bon, et puis, il y a le fils du pauvre.
Le fils du pauvre, voilà, il y a les chemins qui montent, sur le sujet.
Mais c'est important. Arémilie.
Alors, moi, je me demandais, Mézianaïs est l'initiateur du spectacle. On sait que c'est un amoureux de cabaret. Est-ce que vous savez ce qui l'a poussé à monter ce spectacle en particulier?
Oui. En l'occurrence, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à l'origine de ce spectacle, c'est justement une affaire personnelle, d'émotion individuelle, et la volonté qu'a eu Méziane Azaïch de rendre hommage à une génération, celle de ses parents, celle qui est venue, qui a construit une partie de la France, qui a construit la trajectoire migratoire et qui a modifié peut-être le visage de la France et de l'immigration algérienne. Et donc c'est d'abord et avant tout une émotion tout à fait personnelle parce que son histoire personnelle familiale le ramène au café et au café-hôtel algérien. Son père était tenancier de bistrot, lui il a fait ce travail par la suite, etc. Et c'est véritablement quasi un hommage paternel. C'est un hommage au père, ça part de là. Bien entendu, ensuite, il élargit, parce que il y a aujourd'hui toute une génération qui est en train de partir, qui a connu ces cafés, qui en a été responsable, etc. Et donc, c'est à la fois, d'une part, c'est une émotion personnelle, intime, individuelle, quasi corporelle, avant d'être théorique, tout ce que charrie le spectacle comme propos pédagogique. Mais c'est d'abord, effectivement, cet aspect des choses. Ensuite, va venir le souci de transmettre. Transmettre cette histoire qui est la sienne, qui est celle d'une grande partie de l'immigration algérienne, la transmettre non seulement aux générations qui sont issues des différentes migrations algériennes, et des Français d'origine ou pas algérienne, mais de la France en général, rappeler d'abord cette histoire, rappeler que cette histoire fait partie de l'histoire de France, et rappeler effectivement aux jeunes générations qui se rattachent par une filiation directe à l'immigration algérienne, que c'est leur histoire et que cette histoire est un peu trop oubliée et qu'il y a eu chez leurs aînés d'une génération ou de plus ancienne, des créateurs, des artistes, des gens qui ont été capables, effectivement, malgré les souffrances, les difficultés qui ne sont pas cachées dans le spectacle, ils montrent effectivement que toute la capacité résiliente, finalement, sur le plan artistique, sur le plan culturel, sur le plan relationnel, eh bien, c'est aussi cette histoire que charrie les Barbès Café.
Qu'est-ce qui reste pour vous aujourd'hui de cet esprit du Barbès Café?
Bah, le Barbès Café, à la fois dans le spectacle ou par rapport au café, vous voulez dire de manière générale?
Par rapport à l'esprit qui existait dans ces cafés à l'époque.
Bah, je crois que le spectacle restitue cette ambiance des cafés où justement le spectacle commence. Vous l'avez pas vu, Émilie, hélas, mais c'était complet hier soir, effectivement. Mais on a eu l'occasion avec Mustapha de le voir plusieurs fois pour travailler ensuite sur une écriture du spectacle. On est dans l'univers du café, c'est-à-dire qu'il y a la serveuse du café est française, comme souvent ces cafés de banlieue, ces cafés de algériens étaient souvent des cafés. On le rappelait tout à l'heure, effectivement, ils avaient le droit de faire des cafés, mais il y avait cette mixité aussi. Il y avait des serveuses françaises, il y avait des prolos français, il y avait des clients français qui étaient là aussi. Et puis voilà, tous ces gens se mêlaient.
Au-delà de tout ça, Samia, au Barbès Café, il y a quand même l'histoire d'un couple mixte.
Oui, on est couple mixte. C'est pour ça que je parle.
À l'époque, c'est quand même quelque chose qui ne se fait pas.
Et ça se fait pas, mais ça existait.
Ça existait. C'était...
Voilà. Parce que l'histoire du Barbès Café, c'est l'histoire de Lucette et de Mouloud, et c'est une histoire qui, dans la vraie vie,
Lucette,
a existé.
Et Lucette raconte l'histoire
et
à Mouloud.
Elle raconte à Mouloud son histoire, qui est une histoire d'immigration, elle aussi. Parce qu'elle, elle vient de province, et elle a trouvé un petit boulot à Paris, elle est devenue serveuse. Donc, il y a une espèce de proximité de sociale entre l'un et l'autre, parce qu'ils se racontent en même temps leur histoire. Et dans ce Barbès Café, et dans ce spectacle, et dans cette écriture du livre, nous, on a voulu, avec Mustapha, raconter cette histoire sociale, cette histoire culturelle et musicale. On y reviendra, parce qu'elle existe encore, elle existe autrement. On en parlait dernièrement. Il n'y a pas le Barbès Café stricto comme il était dans les années 60, n'existe plus dans la communauté algérienne, entre guillemets.
Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, mais par exemple, quand on va aller voir des lieux de mémoire, est-ce qu'il existe encore des cafés historiques dans le 3e, dans le 11e, comme on sait, que ou à Belleville ou à Ménilmontant, est-ce qu'il en reste encore des endroits comme ça?
Il en reste encore quelques-uns. Il y en a un rue des Maronites, là, qui s'appelle La Cantine, où il y a beaucoup de...
À côté de la CB.
À côté de l'association culturelle berbère, oui, exactement. Mais il y en a d'autres. Il y en a pas que ici, que dans cette rue-là. Il y en a en région parisienne, il y en a encore. Mais ils ont pas la même dynamique que celle des années 50, des années 60, qui était celle où il y avait les hommes seuls. Il y a une autre dimension sociale. C'est d'ailleurs souvent des chibanis qu'on retrouve dans ces cafés. Alors que dans les années 60, ils étaient des jeunes. C'était des travailleurs. Ils étaient endimanchés. Ils allaient au café pour écouter de la musique du pays, pour écouter Slimane Azam dans l'arrière-salle du café, pour écouter tel ou tel morceau, pour parler du pays, ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est plus chibani.
Écrire des lettres du village, aussi, du village, c'est qu'on raconte dans le livre. C'est important, ça,
l'écrivain public.
Oui, surtout que dans l'histoire de l'immigration algérienne en particulier, mais je pense que c'est vrai à toutes les immigrations, le portefeuille, c'est le bureau, c'est le Macintosh.
Il y a tout dans le portefeuille.
Il y a tous les papiers qui sont là, il faut faire le tri, on les garde, on ne sait jamais, etc. Donc il est toujours bon d'avoir quelqu'un qui sache lire, écrire, aider, etc. Mais pour revenir sur deux, trois éléments là que vous avez abordés, moi je suis né dans un café, dans un de ces cafés. Mon père avait un café.
Porte de Clichy.
Pas seulement. Enfin, je suis né en 57, donc il y a eu du parcours entre le 10e arrondissement, le 5e arrondissement et le 17e. Bien. Et sur ce qui reste de ces ambiances-là, ça, c'est peut-être une nostalgie qu'il y a à l'enfance, parce que moi, j'ai pas vécu ce qu'ont vécu les immigrés en tant que tels, hein, la nostalgie, l'exil, le travail, etc., la peur de le racisme, tout là. Mais ça reste un lieu où, l'ambiance, pour moi, reste, malgré toutes les vicissitudes, malgré toutes les difficultés, qui est marquée par une chaleur, une relation où effectivement, eh bien, on se retrouve, notamment le dimanche, par exemple, où c'est le jour de semaine où on va se reposer, où on va taper l'apéro au bar, où on va effectivement, quand on n'a pas de groupe, on met le jukebox et on met la musique, où ça discute, où il y a les cousins qui viennent d'un peu plus loin, etc. On se rend compte, c'est marqué par l'heure du repas, par les heures de lever, etc., etc. Enfin, je veux dire, ce qu'il reste de tout cela, c'est véritablement une humanité profonde, dynamique, fraternelle, quelque chose d'absolument dont j'ai la nostalgie, mais peut-être parce que j'ai la nostalgie de l'enfance. Sur le métissage, juste un point, c'est vrai qu'effectivement c'était exceptionnel, mais c'est là que se construit le visage de la France métisse d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est par cette génération que des rencontres se font, que ce soit dans les cafés ou ailleurs, jusqu'à la femme, l'épouse de Messali Hadj, par exemple, pour parler d'un nationaliste, qui serait à l'origine du drapeau algérien. Je ne sais pas si c'est vrai, justement.
Le premier drapeau algérien.
Symboliquement, et c'était une volonté aussi de Méziane Azaïf de faire de raconter cette histoire par une femme française, parce que justement ça traduit ce métissage.
Le Barbès Café, c'est maintenant un livre, une histoire qui est écrite. On en parle jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril.
Le Book Club de Beurre FM vous emmène au Barbès Café aujourd'hui. C'est un spectacle, le Barbès Café, qui tourne depuis 2011. C'est aujourd'hui un livre avec l'histoire de ces cafés, de l'immigration algérienne et du rôle qu'ils ont joué, notamment dans le fait qu'aujourd'hui le couscous est le plat numéro 1 en France préféré des Français. Je reçois ce matin Samia Messaoudi et Mustapha Arzoun. Et c'est vrai que le couscous, c'était le plat de ces cafés.
Ah, ça, c'était le plat quotidien. Moi, je rappelle donc mon histoire. À l'époque, mon père allait faire les courses non pas à Rungis mais à Wall, à Paris, puisque c'est encore il était cette génération. Et le couscous, il était quotidien, frais quotidiennement, fait en général effectivement avec des viandes de bœuf, de mouton. Le poulet rôti pouvait être accompagné, etc. Et les légumes et tout étaient frais. C'est le plat quotidien. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, le couscous est souvent symbolique de festif, de grandes réunions, etc. C'est un couscous au départ. Le couscous, il y a 100 000 couscous. Et c'est, quand il est quotidien, il est tout simplement, effectivement, le couscous, le plat, si ce n'est du pauvre, le plat commun. Bon. Alors, il va connaître une grande notoriété, effectivement, après la guerre d'Algérie, notamment avec les rapatriés qui vont faire le couscous, ce qu'il est devenu aujourd'hui en France. Mais c'est vrai que le premier couscous en France métropolitaine, c'est les couscous des Bouy-Bouy Kabyle.
Ah, de ces restaurants, de ces bistrots. À quel moment est-ce que la musique arrive dans ces cafés? Parce que vous parliez tout à l'heure de Slimane Azam, mais tous ces chanteurs de l'immigration se produisaient tous les soirs dans les cafés parisiens.
Oui, ça tournait. Alors effectivement, je pense que ça arrive très très tôt, dès les années 30. Hein. Il y a les premiers artistes, chanteurs, compositeurs dont on parle dans le livre sont des gens qui tournent dès les années 30. Slimane Azam, c'est déjà les générations des années 50, comme Dahman ou Sharif Reddem ou d'autres. Hein. Donc ça arrive dès les années 30, donc très très tôt. C'est-à-dire que il faut pas non plus oublier une chose, c'est que peut-être que ceci est lié à cela, c'est qu'on a affaire à une culture orale. On a affaire à une culture où la poésie est importante. Et que très probablement c'est l'équivalent de Facebook ou je ne sais trop. C'est-à-dire que à travers la poésie, à travers les artistes, à travers le mot, eh bien, on va traduire effectivement du lien, on va traduire une histoire, on va traduire des émotions. Et très tôt, pour des gens qui appartiennent à ce type de culture où le mot est essentiel, une mémoire du mot qui est étonnante aujourd'hui. On se souvient pas de ce qu'on a fait hier. Je connais des anciens qui sont capables de raconter effectivement un certain nombre de choses qui renvoient à des années en arrière. Donc cette mémoire du mot est tellement importante que je pense qu'il y a une adéquation entre la volonté individuelle, artistique de quelques-uns, musiciens, poètes, etc., et puis cette réception, cette osmose finalement de l'auditeur de cette culture avec la chanson.
Mais avant les salles comme l'Olympia, le Barbès Café, il y en a beaucoup dont la renommée s'est construite dans les cafés de l'immigration et qui faisaient plusieurs cafés, comme après les chansonniers ont fait les cabarets le soir, qui faisaient plusieurs cafés tous les soirs à Barbès, à Belleville et qui chantaient.
Oui, tout à fait. Ça a été les lieux de spectacle, les lieux de production, avec un réseau parallèle parfois effectivement de production, d'enregistrement, repris par d'autres, par des organismes plus spécialisés, de manière pas seulement spécifique dans le domaine de la musique algérienne ou de l'immigration, mais ça a d'abord été effectivement les réseaux où l'on se produit, les réseaux où on a son public, les réseaux où finalement on va réussir un peu à vivre de sa production, avant de déborder petit à petit. D'ailleurs sur cet aspect des choses, vous parliez de la CB tout à l'heure, l'Association de Culture Berbère, dans les années 80, donc on est bien après, mais ça a aussi été une volonté du mouvement associatif que de ouvrir, et plus encore avec Beurre FM dans la foulée, ouvrir justement le domaine artistique au-delà des lieux jusqu'alors confinés, réservés, comme si finalement ça ne devait s'exprimer que dans des lieux particuliers. C'est d'ailleurs un des autres aspects du spectacle, c'est-à-dire effectivement de déborder les cadres de départ pour bien montrer que c'est un phénomène culturel artistique français et que il n'y a pas de raison de limiter l'audience, la production à des espaces ou à des lieux secondaires ou particuliers.
Pour poursuivre sur ces lieux de musique, il y avait quand même aussi dans ces années-là des lieux à Paris qui s'appelaient des cabarets, le cabaret oriental. Là, c'était moins l'immigration qui allait, parce que d'abord ça avait un coût, mais quand même on faisait quelques économies pour y aller. D'ailleurs, il y en a un très célèbre qui était rue de la Huchette qui s'appelait le cabaret El Jazair, qui a été aussi l'espace plus visible de cette chanson algérienne. On l'appelait cabaret oriental, mais en réalité, c'était souvent algérien. Bon, il y avait la danse orientale aussi, qui c'était la danseuse orientale qui se rémoussait, mais il y avait quand même un public à la fois français et à la fois algérien. Il portait ce nom, cabaret El Jazair, mais c'était quand même un lieu de fréquentation qui commençait à être très ouvert. Après, on en pense que l'on veut de ce type de lieu de musique, mais en tout cas, c'est un lieu de divertissement, un lieu de dépaysement, et c'est un lieu qui a quand même marqué aussi l'histoire de la chanson algérienne au travers ces cabarets. Mais on est loin de l'espace à la fois des travailleurs algériens, de ces immigrés, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils portaient dans les espaces qui étaient certes des espaces communautaires où ils se retrouvaient et qui se sont ouverts ensuite, mais ça a fait partie aussi ces cabarets de l'espace musical de l'immigration.
Vous parlez d'ailleurs dans le livre de spécificité de cette musique qui est un mélange qui a été influencé à la fois la musique française a influencé la musique algérienne et vice versa. C'est quoi finalement les spécificités de cette musique de l'immigration? Comment vous la décririez?
La spécificité de la musique de l'immigration, elle est à la fois sur la musique et puis sur les paroles. On verra que il y a des chanteurs kabyles qui ont chanté avec des mots en français. Moustapha rappelait tout à l'heure l'aspect poésie, l'oralité. C'était aussi ça l'expression de la chanson kabyle. C'était qu'on chantait en... Slimane Azam a chanté en kabyle, mais de temps en temps, il y avait des mots français dans les paroles de ses chansons. Dans la musique, on a retrouvé l'instrument traditionnel. On a la guitare et puis bender et autres instruments traditionnels. Mais il y avait ce mélange dans les langues, surtout dans la langue qui est important dans la chanson de l'immigration.
Oui, juste, je reviens sur la précédente question et je vais apporter un complément à ce que vient de dire Samia. Il faut aussi se rendre compte une chose, c'est qu'on ne peut pas parler de ces cafés, on ne peut pas parler de la production artistique sans parler de l'histoire de l'immigration et l'histoire de l'Algérie coloniale. C'est qu'effectivement, il y avait beaucoup d'immigrés algériens en France et que c'était pour des artistes qui décidaient de venir pour des raisons diverses. El Hasnaoui, c'est un peu parce que effectivement il veut quitter l'Algérie pour des raisons un peu personnelles, etc. D'autres pour faire un peu plus de carrière. Lorsqu'on est artiste, on va là où sont les auditeurs et le public potentiel. En l'occurrence, ce seront les cafés, qui expliquent effectivement cette l'importance du café comme lieu d'expression. Sur les spécificités de la musique, d'abord, j'ai envie de dire une chose, c'est que la spécificité première, c'est la poésie. Ça veut dire qu'on parle de l'exil, on parle de ce que vivent, c'est ce qu'explique Slimane Azem.
Donc c'est un genre à part. On peut dire que la chanson de l'immigration... C'est un genre à part.
En matière de thématique.
Voilà.
Oui, en matière de thématique.
L'exil.
Oui, c'est l'exil. Lorsque Slimane Azem raconte son histoire du côté de Longwy, etc., il est écouté par ceux avec qui il travaille, qui ont dit, il partage le quotidien d'ouvriers dans l'est de la France. Il ne traduit que ce que vivent ceux avec qui il partage le travail, l'exil, etc. Donc c'est une chanson, c'est d'abord et avant tout des chansons qui parlent de l'exil, de la distance, de la famille, de la femme et les enfants laissés au pays, du village, éventuellement de, il y a un très beau texte, une très belle chanson de Slimane Azem où il parle effectivement du labyrinthe d'une vie d'exil où on est paumé, etc., etc. On parle effectivement du rapport à la France, à les Françaises, etc. Donc c'est toute une thématique qui est liée véritablement à l'exil, qui est spécifique à cette musique, à cette chanson. D'autres aspects, à mon avis, qui me semblent importants de signaler, c'est le métissage musical. C'est-à-dire qu'on a des chansons, des influences sud-américaines, orientales, notamment avec Sherif Adam. On a des influences évidemment liées à la musique française.
Alors, Sherif Adam, ce que vous expliquez dans le livre, c'est qu'il chantait dans les cafés, mais il étudiait aussi.
Ah, Sherif Adam, c'est un parcours particulier.
Voilà, il gardait son argent pour se payer des études pour faire le conservatoire.
Oui, c'est un parcours très particulier, au sens où, effectivement, il a construit sa carrière sur des études musicales profondes, systématiques, avec des influences diverses. C'est de l'orchestration, c'est des arrangements, c'est pas seulement effectivement le banjo, le darbuka et etc.
On fait un premier arrêt en chanson aujourd'hui. Alors, Hasnaoui, Maison Blanche, qu'est-ce qu'elle symbolise cette chanson Maison Blanche?
C'est l'exil, ça veut dire c'est le départ. C'est-à-dire qu'on va fuir la misère d'Algérie coloniale. Maison Blanche, c'est le nom de l'aéroport, hein, déjà. C'est l'aéroport d'Alger. Hein.
Voilà.
Donc c'est
qui s'appelle Ouari Boumediene aujourd'hui.
Voilà. Ouais. Ouais.
Pour tous les Algériens et tous les émigrés, c'est Maison Blanche encore.
Oui, donc voilà, ça symbolise le fuir la misère, aller vers l'aéroport et s'embarquer.
الجا تتغير تتهول من كل وزبة لستيعول قبالا نور يسول ألا ميزون بلانش ألا ميزون بلانش الجزائر تتهول كل وزبة لستيعول قبالا نور يسول ألا ميزون بلانش ألا ميزون بلانش تدار قمة المهوين عمر حاجة تلاوين وين يسعد قولي سدحنين الهمني وولاش الهمني وولاش وسقم درواج وشكر صوتك سيكر وغبار لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش سترو للهم يصار وسقم درواج وشكر صوتك سيكر وغبار لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش الفراق ديما طي ما زال الحزن نمي ضمزال تلاوينك ست المالك وجل نولاش وجل نولاش
FM, midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril.
Le Book Club de Beurre FM et cette semaine, Émilie, nous lisons Barbès Café le livre. Montrez-le à la caméra.
Alors, c'est pas sympa ce que vous me faites, Philippe. Mmh. C'est pas facile. Non, par contre, je peux vous citer une très jolie citation dont vous donnerez le nom de l'auteur bien mieux que moi, qui est « Plus les temps sont durs, plus notre rire sera fort ». Je trouvais que ça résumait bien le... l'ambiance.
C'est une citation rabbinique, ça. C'est, mais alors, j'ai plus le souvenir de l'auteur exactement. Il y a tellement de citations, mais c'est à part, c'est un hassid de l'Europe de l'Est. Alors, je ne me rappelle plus.
Excusez ma prononciation, mais moi, j'ai Rabbi Raman de Bratslav.
De Bratslav, c'est ça, voilà. Ouais. Mais oui, là, c'est ça. C'est d'Europe de l'Est.
Il a dit rabbinique, on était
bien. Non, c'est ça, oui, mais je me reviens le nom exact, mais c'est une citation, effectivement, qui nous vient d'Europe de l'Est. Et que j'emprunte souvent, d'ailleurs, et que j'ai emprunté à un auteur qui s'appelle Mohamed Kassimi, qui le cite souvent dans que ce soit à l'oral ou dans un de ses livres.
À quel genre de spectacle le Barbès Café appartient-il?
Alors c'est un spectacle qui serait assez difficile à cataloguer, au sens où c'est un spectacle tellement riche qu'il peut appartenir à plusieurs types de spectacles.
Vous dites que c'est un spectacle complet, mais c'est quoi? C'est un spectacle historique, c'est du théâtre, c'est du café-théâtre.
C'est tout ça. Ça veut dire qu'effectivement vous avez à la fois un spectacle historique, patrimonial, comme dirait Naïma Yahi, l'historienne qui a travaillé sur la préparation du projet. Patrimonial historique, au sens où, effectivement, on va traduire une histoire et on va traduire cette histoire à travers un patrimoine artistique et musical important, patrimonial. Café, concert, théâtre, parce que vous avez sur scène non seulement un spectacle qui joue, mais vous avez aussi des acteurs, en l'occurrence, qui interprètent les rôles de Lucette et de Mouloud, qui sont là et qui font qui sont le fil conducteur du spectacle et qui, à travers eux, défile l'histoire de l'immigration algérienne. Donc on est aussi côté théâtral. Il y a de la vidéo.
C'est les années 50, hein.
C'est essentiellement les années 60, parce qu'on parle de 17 octobre 61, donc ça vient peut-être dire un mois après, quand on parle un peu plus d'immigration. Et c'est 50-60, effectivement. Vous avez aussi une dimension vidéo, avec le travail de recension qu'a fait Aziz Mati, qui à travers un certain nombre de vidéos, eh bien, rythme aussi l'histoire de l'immigration algérienne, que ce soit l'arrivée, le racisme, 17 octobre, la marche, un certain nombre de portraits de personnalités françaises aujourd'hui issues de l'immigration algérienne. Vous avez une dimension chorégraphique, puisqu'il y a aussi pas mal de danse. Qu'est-ce qu'on peut dire encore comme dimension ? Les aspects un peu plus, comment dire, théoriques, on y viendra peut-être après, sur l'aspect pédagogique, sur la démarche, sur le fait que le type
parce
de
que,
public...
Parce que Méziane avait une démarche, finalement, quand il a...
Parce qu'il avait une démarche.
Voilà, au départ, il y a une démarche donc, quand il crée ce spectacle.
Oui. Bah, toute la construction du spectacle que souhaitait Méziane Azaïch, complétée par ce que vient de dire Moustapha en citant Naïma Yahri, qui est une figure importante hein, sur la mémoire de l'immigration algérienne, au travers de la musique, au travers les chansons, puisque c'est son centre de recherche. Dans ce spectacle, moi, vous dites complet, moi, je dis vivant. C'est comme ça qu'on qualifie aussi les spectacles quand on classifie les genres. Je parlerai du Barbès Café comme un spectacle vivant avec la dimension qui vient d'être expliquée dans sa diversité à la fois scénique et s'adressant à un public qui est de premier chef intéressé, puisque c'est une restitution de leur histoire, les Algériens, leurs enfants, leurs petits-enfants, de génération en génération, on peut aller voir le Barbès Café, parce qu'on s'y retrouve, c'est l'histoire de nos grands-parents, c'est l'histoire de nos parents, c'est notre histoire un peu, qui est racontée là, mais c'est aussi l'histoire de Pierre-Paul Jacques, puisque dans toute cette histoire, dans cette trajectoire qui défile, qui est l'histoire de l'immigration algérienne, c'est aussi l'histoire de France. Donc c'est en ça que à la fois il est vivant dans sa mise en scène, mais il est vivant par rapport à l'histoire de France, puisque effectivement à la fois et ses chansons et l'histoire de ces hommes et de ces femmes appartiennent à la France, évidemment.
Mais il y avait une volonté aussi d'inscrire les chansons qu'on entend dans le spectacle dans le patrimoine musical français. C'est ça aussi qui était important.
Oui.
Les jeunes générations les connaissaient pas toutes, hein, ces chansons, faut être clair.
Oui. Non, je pense que même sont malheureusement plutôt méconnu que même peu connu. On a quelques reprises effectivement par Zelda. Celui qui a repris la chanson d'Ahman ou de Yahya
Rachita,
etc. Donc il y a quelques reprises comme ça un peu connues, mais je pense que l'essentiel de ce énorme patrimoine est pratiquement méconnu. Et aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur parce que Naïma Yahri fait beaucoup justement pour faire connaître, diffuser ce patrimoine artistique et musical.
Et comment est-ce que vous avez fait parce que pour choisir les chansons dans ce spectacle, parce que finalement c'était pas le trop peu qui menaçait, c'était le trop plein ils ont fait face.
Oui, ils ont fait face à ça. Nous on n'y était pas à ce moment du projet. Mais donc, effectivement, on a rencontré, on a discuté avec les uns et les autres, notamment avec donc, Naïma et Méziane, mais aussi avec Nasreddine Dalil, qui était un peu le chef d'orchestre sur le plan musical. Et il y avait un trop-plein, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec des centaines de possibilités. Et en plus, on peut imaginer des dizaines de choix différents selon telle ou telle particularité. Je veux dire, il y en avait un qui avait une tendresse pour Yahya Ten, l'autre peut-être pour Slimane Azem, etc. Ouais. Donc, le choix,
c'est important. Important de reparler de tous ces gens. Moi, quand j'ai commencé la radio, Samia Messaoudi était là depuis longtemps, mais dans les années 90, c'était des énormes stars.
Exactement,
énormes stars.
Et c'est vrai que Rachita lui a donné une deuxième vie à sa chanson.
Mais c'est vrai que c'est ce qui est dit et c'est ce qu'on dit dans le livre. Ça veut dire que c'est pas c'est pas une liste. On a vous dit, tiens, voilà, on va parler de tel, parce que tel a fait telle chose de telle année. Non, je crois que la démarche a été plutôt historique, c'est-à-dire que comment la chanson traduit l'histoire des Algériens en France. Et quels sont les moments forts de cette histoire? Qu'est-ce qui est important dans le parcours et dans la trajectoire de l'exil? Qu'est-ce qu'ils ont vécu sur un plan social et politique qu'il faut aujourd'hui traduire? Et quelles sont les chansons qui vont porter ces aspects?
Oui.
Ce qui fait que le travail a plutôt été fait dans ce sens-là. Et à partir de ce choix, de cette volonté finalement de privilégier l'histoire sur la recension un peu abécédaire des artistes, on a cette proposition qui est toujours insatisfaisante. Je veux dire, c'est comme un dictionnaire. Il y aura toujours une entrée ou deux qui manquent.
Oui. Cette chanson, est-ce qu'elle est politique? Parce que on a parlé du couscous, tout ça, mais est-ce que dans des arrière-salles de café, on parlait de politique et une partie de la guerre d'Algérie s'est jouée dans ces dans les arrière-salles de ces cafés. Est-ce qu'il y a une chanson politique de l'immigration?
Oui, bon, enfin, je pense. Bon, d'abord dans les salles, dans l'immigration, est né le nationalisme algérien déjà. C'est, ça part dans les années 20, ça part de l'immigration algérienne.
L'étoile nord-africaine,
hein. Voilà. Et la chanson de l'immigration est politique, ne serait-ce que parce que déjà, par son expression, c'est un des aspects aussi de la particularité de la chanson de l'immigration algérienne, c'est qu'on s'y exprime dans les trois langues. Et on peut y ajouter éventuellement...
Donc kabyle, français et algérien dialectal.
Algérien, arabophone, et voilà, l'arabe dialectal, tel qu'il est parlé, l'arabe algérien. Donc c'est déjà quelque chose d'important, y compris d'ailleurs des chanteurs kabyles qui sont aussi en arabe, comme Yahya Ten ou Hasnaoui par exemple, qui ont cette démarche parce qu'ils s'adressent à un public qui est leur public, qui est un public divers et qui porte en lui toutes ces langues et toutes ces cultures. Donc ça, c'est déjà un premier élément important sur le plan politique, surtout aujourd'hui. Puisque la question du nationalisme, la question de l'identité, etc., est quand même au premier plan, encore depuis 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance. Ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect, effectivement, c'est la condamnation du colonialisme. C'est la condamnation de la situation, c'est la description de ce qu'est la situation de l'Algérie coloniale. On a des textes, un auteur comme Slimane Azem, par exemple, effectivement, sera expulsé.
Messieurs, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Bien avant la résidence.
Voilà, ça c'est... Carte de résidence, donc un tube.
C'est un tube, et ça nous ramène effectivement beaucoup plus loin dans les années à venir. C'est-à-dire que c'est aussi la description de ce que les Algériens vivent, et y compris même avoir effectivement à travers la carte de résidence un propos, un avis, et chanter en français, parce que Slimane Azem s'adresse aussi au public français, pour faire comprendre effectivement que cette chanson peut aussi être politique, effectivement.
On va se quitter avec Slimane Azem, c'est d'ailleurs celui qui est cité le plus dans le livre. Et ça va plaire à Dider, qui réalise l'émission et qui est le spécialiste mondial de Slimane Azem. Mais c'est vrai que c'est celui qu'on retrouve le plus dans votre livre, Slimane Azem.
Parce que c'est celui qu'on entendait le plus dans les cafés.
CQFD. Merci à tous les deux d'être venus. Barbès Café continue le spectacle? Ou c'est fini là maintenant?
Méziane Nazaïch, pour terminer, avec une pensée à Méziane qui n'est pas parmi nous, mais quand elle est... Voilà.
C'est beaucoup trop tôt. Café, dimanche midi pour Méziane, c'est beaucoup trop tôt.
Pour Méziane à cette heure-ci. En tout cas, Méziane fête les 20 ans du Cabaret Sauvage, qui est ce lieu qu'il a créé il y a donc 20 ans. Et il souhaitait, tout au long de ces 20 ans, faire 20 spectacles. Et il se faisait fort, il en avait terriblement envie, comme l'a dit tout au début de l'émission Moustapha. C'est son émotion, c'est son histoire que cette clôture des 20 ans se fasse avec le Barbès Café.
Quelque chose d'important quand même. Le Barbès Café continue à travers un spectacle pour enfants. Il est en place, il commence à tourner, il va tourner toute l'année prochaine, et ce qui montre bien que c'est le deuxième élément de la démarche de Méziane, c'est-à-dire c'est aussi s'adresser aux plus jeunes, et il y a ce spectacle pour enfants qui existe aujourd'hui.
Bon, et pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent, Émilie, cette chanson, Algérie, mon beau pays.
Bon dimanche sur Beurre FM.
Je me rappelle cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. Pour moi ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. seul, je me parle à moi-même. J'ai failli à mon devoir. J'ai mené une vie de bohème et vécu dans le cauchemar. Quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.